Bonjour tout le monde, bienvenue au Théâtre des Célestins. Je suis Claudia Stavisky, je dirige le Théâtre des Célestins avec Patrick Penaud. Nous sommes particulièrement heureux de vous recevoir aujourd'hui, de recevoir ces journées de l'économie dans nos lieux. Je serai aussi brève que précise. Ces raisons qui nous rendent si heureux, on peut les diviser en trois groupes. Le premier groupe, la première, est probablement une raison extrêmement raisonnable. Depuis les origines, le théâtre, cette salle en particulier dans laquelle vous êtes assis, est le lieu du questionnement sur la cité. Ce questionnement, aujourd'hui, ces questions qui nous taraudent, sont d'ordre fondamentalement économique. Donc, il y a au moins entre nous, donc, artistes et vous, économiques, à défaut de réponses, des questions en partage et des questions communes. La deuxième raison est une raison, alors là, complètement déraisonnable. Et même si je prends le risque de formuler un vœu pieux, je veux espérer que la crise que nous traversons saura chasser les démons même qui l'ont provoqué. Et en particulier, je pense à un des démons qui fit répondre à la question « qu'est-ce que l'économiste économise ?» qui fit répondre à un de vos pères « l'amour ». Naturellement, à travers ce mot, il parlait de la moralité, du civisme, et de proche en proche, naturellement, la politique, c'est aussi, l'économie, c'est aussi des parties de la politique, de la sociologie, de la culture, enfin, de beaucoup, de toutes ces choses non quantifiables. Et cela m'amène, naturellement, à la troisième raison, qui, elle est complètement irrationnelle et que je livre à votre perspicacité. La saison dernière, commencée avec la crise, a vu les ventes du Théâtre des Célestins augmenter. Pourtant, le Théâtre des Célestins propose un théâtre d'art, ce qui est extrêmement différent de l'industrie du divertissement. Pourtant, cette saison, les ventes des abonnements et les ventes des places semblent continuer à augmenter. Ce week-end, nous allons présenter les deux journées exceptionnelles des représentations de la trilogie de Wajdi Mouawad. Elles affichent complet. Il y sera question des promesses non tenues et du sang qu'il découle. Alors qu'il y a aujourd'hui 1400 personnes qui ont choisi de passer ce week-end 11 heures par jour assis sur les places auxquelles vous êtes assis aujourd'hui, la petite énigme que je vous soumets, c'est qu'est-ce dont le temps et l'argent que ces spectateurs-là dépensent? Merci de vos réponses. Je vous souhaite donc une très utile journée de travail et je passe la parole à Monsieur Merer, le directeur général des Journées de l'économie. Bonne matinée.
Bonjour. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour cette deuxième édition des journées. Je commence à avoir des tas de têtes amies qui ont aidé depuis déjà deux ans à organiser ces journées. C'est un grand plaisir, j'espère que vous y trouverez aussi tous ce que vous y cherchez. Il faut savoir que ceux qui étaient là l'an dernier ont massivement répondu au questionnaire d'évaluation qui avait été fait après et que ça a été une aide très précieuse. Donc vous ne savez peut-être pas, mais j'ai passé beaucoup de temps avec vous après les journées de l'économie, à regarder vos remarques et à essayer de les intégrer, à la fois pour enrichir le programme cette année, pour essayer un petit peu plus d'adapter vos attentes. Entre autres, il faudra certainement vous faire une place pour que vous puissiez vous poser vos questions Et dans chaque conférence, ça semble essentiel que ce ne soit pas seulement les conférenciers qui vous disent ce qu'ils ont à vous dire, mais que vous puissiez vous aussi arriver à poser des questions qui vous semblent importantes. Donc on essaiera que réellement cette place soit respectée. Deuxième chose, on a essayé aussi de diversifier. Je souhaitais vraiment que ces journées de l'économie deuxième édition vous offrent plus que les conférences que vous pouvez choisir. Il y a un salon du livre, je l'ai vraiment voulu, c'est un pari. C'est un pari que je prends avec vous, que ça va vous intéresser, que vous aurez envie d'acheter des livres d'économie, je l'espère bien. Mais ça veut dire que si on le réussit, on pourra le reconduire, autrement ça sera beaucoup plus difficile. Donc à la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, qui nous accueille, qui est là quand même là, la structure centrale pour les journées de l'économie, il n'y aura pas que le buffet cette année. Vous aurez ce salon du livre, vous aurez aussi des stands dans lesquels vous pourrez vous exercer sur des logiciels avec le CDE, l'INSEE, et puis un jeu d'économie expérimentale qui est organisé, avec même des prix à gagner, donc vous pourrez en profiter. L'idée, c'est quand même qu'on fasse de plus en plus de choses autour des conférences. Il y a une jeune actrice aussi qui va intervenir quelquefois dans les conférences avec des textes. J'aimerais justement, et ce lieu est idéal, qu'on arrive à croiser des démarches artistiques avec nos analyses économiques. On fera mentir ceux qui nous disent que c'est une science austère. Donc j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir et que vous répondrez aussi massivement que l'an dernier au questionnaire pour que je sache pour la troisième édition comment je pourrais faire mieux. Eh bien voilà, les journées de l'économie sont ouvertes.
Merci Pascal, bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette séance d'ouverture des journées de l'économie. Alors vous avez peut-être vu dans la presse ces derniers jours quelques articles sur le rapport des Français à l'économie, avec des titres parfois un peu contradictoires. Je crois que c'est François qui nous décernait la semaine dernière un bonnet d'âne général à nous les Français, et puis le Parisien aujourd'hui en France qui au contraire disait de nous qu'on était friands d'économie. Alors comme d'habitude, la vérité est entre les deux. Et en tout cas, on vous a réservé la primeur de ce questionnaire CODIS sur les connaissances économiques des Français. Isabelle Nocmeo, bonjour, vous êtes déléguée générale du CODIS. Alors peut-être avant de nous donner les premiers enseignements de ce quiz, est-ce que vous pouvez nous rappeler la méthodologie ?
Merci, bonjour à tous. Je voulais vous dire que j'étais particulièrement heureuse et honorée d'être parmi vous aujourd'hui pour la deuxième édition des Journées de l'économie, dont le CODIS est un partenaire historique. On peut déjà parler d'histoire, puisque c'est l'une des idées fondatrices du CODIS d'instituer des Journées de l'économie. Et j'espère pouvoir accompagner cet événement durant de nombreuses éditions avec Pascal. Alors le CODIS, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une entité indépendante et multiculturelle, chargée par le ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Madame Lagarde, la ministre, de proposer des mesures, des actions simples et concrètes pour promouvoir une meilleure compréhension de l'économie. Alors pour cette deuxième édition des Journées de l'économie, on vous a préparé une action concrète avec une démarche qu'on espère fondatrice et pérenne pour la culture économique. Alors, Pascal nous a demandé une étude. Donc, les études sur les rapports entre les Français et l'économie sont légion et amènent d'ailleurs des commentaires souvent contradictoires et un peu manichéens. Les Français sont nuls en économie. Donc, cette fois-ci, on a pensé faire une étude particulière avec l'Institut TNS Sofres pour le CODIS, qui vise à évaluer le niveau de connaissances économiques des Français. Et pour ça, on a donc réalisé un test que je vais vous présenter maintenant. Quelques mots sur ce test. D'abord, ce test existe déjà depuis quelques années à l'étranger, notamment aux États-Unis, mais il a été repris dans des pays voisins européens comme l'Allemagne et l'Autriche. Il consiste à poser un certain nombre de questions, 27 en l'occurrence, sous forme de QCM, avec la personne interrogée ayant le choix entre trois réponses, dont une est juste, bien entendu, et la possibilité de ne pas répondre. Ces questions ont été élaborées avec le concours, bien sûr, d'experts en économie, membres ou partenaires proches du CODIS. Elles sont destinées à montrer aux Français ce que recouvrent exactement les connaissances économiques. Derrière ce test, il y a deux objectifs. Premièrement, établir un niveau standard des Français pour essayer de sortir du ressenti, permettre à chacun de s'auto-évaluer et puis mesurer les progrès en renouvelant l'opération. Et deuxièmement, en bâtissant le test, on s'est dit qu'on allait comme ça permettre aux Français d'avoir une vision plus précise de ce que ça veut dire des connaissances économiques. Et on a regroupé des questions selon trois grandes catégories, des questions de raisonnement économique, des questions de connaissances, comme dans toutes les disciplines économiques, et puis des questions d'économie pratique, avec des éléments de calcul technique et qui touchent à notre quotidien. Alors, ce quiz a reçu un accueil très favorable, puisque 71% des Français se sont dit intéressés ou très intéressés et se sont pris au jeu. Et nous considérons que l'intérêt porté à ce test, le sérieux et l'attention avec lequel il a été fait, il s'explique notamment par la conviction ancrée chez nos concitoyens que les connaissances économiques aujourd'hui sont fondamentales pour réussir dans la vie. C'est ce que nous disent 70% d'entre eux. Dans une autre étude que Madame Lagarde a citée, 75% des Français reconnaissent que l'économie aujourd'hui est plus importante que le politique. Donc je crois que c'est le premier enseignement qu'on peut tirer de ce test, c'est que les Français sont fondamentalement, ils ne sont pas fâchés avec l'économie au sens que ça ne les intéresse pas et qu'ils n'y comprennent rien, ils sont fondamentalement intéressés par l'économie.
Concrètement, alors on a sélectionné, vous avez sélectionné quelques questions, hein, puisqu'il y en a, de nombreuses et en trois catégories.
Voilà, alors.
Ah oui, c'est d'abord les notes obtenues, donc.
Voilà,
par les Français.
Ouais, bah oui, le suspense est terminé. Alors, d'une part, les Français ne sont pas nuls en économie. Ils n'ont pas un bonnet d'âne, comme François l'a dit il y a quelques jours, puisqu'ils obtiennent presque la moyenne à ce test, ils obtiennent 9,5 sur 20. Par contre, je pense qu'un correcteur mettrait sur la copie, peut mieux faire. C'est clairement ce qu'on peut déduire de ce test. Alors, pour maintenant, ces résultats doivent être affinés au regard de la dimension explorée des questions. Et là, il y a un tableau intéressant qui est peut-être difficile à lire dans la salle. Mais en fait, le test CODIS, comme je vous l'ai dit, distingue trois types de questions. Des questions de raisonnement qui font appel au mécanisme de base de connaissance de l'économie, l'offre et la demande, l'impact du cours d'une devise sur l'économie, le coût de production, la formation et la variation des prix, des questions sur la retraite. Et globalement, ces questions-là sont relativement bien maîtrisées puisqu'on obtient une note moyenne de 11. Les questions qui sont relatives aux connaissances économiques et qui font appel à la maîtrise de définition et d'actualité économique, les résultats sont en revanche plus mitigés. Ce qui est intéressant de voir, c'est que toutes les questions un peu macroéconomiques sur la spéculation, sur le déficit budgétaire, sur le développement durable obtiennent des notes au-dessus de la moyenne. Par contre, il y a des résultats plus mitigés sur la définition des chômeurs, sur l'acteur de la politique monétaire, sur le revenu disponible. Qu'est-ce que c'est que les revenus disponibles des ménages? Et là, on obtient quand même, même sur le profit d'une entreprise, on obtient des résultats qui ne sont pas à la moyenne. Enfin, les questions d'économie pratique, et ça c'est ce qui est le plus flagrant dans le test, qui mobilisent essentiellement des techniques et des calculs économiques, taux d'intérêt, coût d'un emprunt, taux de croissance, comparaison entre deux offres commerciales relève des lacunes importantes. La note est de 6 sur 20. Le résultat des Français est sans appel. L'éducation financière reste ici à faire. Alors,
le temps presse, Isabelle. Est-ce que vous pouvez nous donner... il presse déjà, oui. Il faut nous donner un exemple.
Alors, un exemple. Un exemple de raisonnement. Sur le pouvoir d'achat, les Français maîtrisent. Ils savent ce que c'est que le pouvoir d'achat. Sur le profit, une notion moins évidente pour plus d'un Français sur deux, puisque 43% savent, effectivement, des Français savent définir le profit. Et dernier point, la question qui a obtenu la note la plus mauvaise, c'est le coût réel d'un emprunt. Donc, nous ne savons pas calculer ce que nous coûte un emprunt. C'est une question de calcul, d'arithmétique, mais manifestement, seul 8% d'entre nous la maîtrise. Voilà. Alors, ces résultats, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Deux éléments peuvent être avancés. D'une part, un constat bien identifié maintenant, des attentes fortes pour une économie plus accessible et plus compréhensible. Les Français s'estiment encore, ont le sentiment de pas bien comprendre, d'être mal informés sur les changements de l'économie. Dans un sondage récent de BVA paru dans Le Parisien, 56% des Français avaient le sentiment de manquer de connaissances en économie pour comprendre les raisons de la crise mondiale. Et alors que l'économie n'a jamais été aussi présente dans l'actualité, les Français perçoivent l'économie encore comme une discipline réservée aux initiés. Alors, je vais revenir en arrière, mais j'ai sauté la slide. Pourquoi cette question ? Parce que l'information économique est vraiment considérée et ressentie par les Français avec son jargon et ses termes abscons, peu accessible et difficilement compréhensible. C'est ce qu'on voit sur cette slide où il nous demande d'expliquer les mots de l'économie, les termes utilisés pour pas parler d'économie qui sont jugés difficiles. C'est regrettable parce que loin d'être une discipline élitiste, confinée à un cercle restreint et autorisé d'initiés, l'économie se doit, et l'était au départ, être une discipline au service de tous. Alors pour conclure cette étude, j'aurais envie de vous citer la phrase de Galbraith. Il n'existe aucun processus ni problème économique qui ne puisse être formulé en langage clair et mis à la portée du lecteur cultivé et intéressé. Deux messages dans cette phrase. Messieurs les économistes, voilà un beau challenge. Les Français vous demandent de rendre l'économie intelligible, de leur expliquer, de la rendre intelligible, de clarifier le langage économique pour qu'ils puissent prendre part au débat. C'est ce qu'ils nous demandent. Pourquoi comprendre l'économie ? Ils nous répondent dans un sondage pour décrypter l'actualité, premièrement. Deuxièmement, pour gérer notre argent. Donc là, il y a un effort à faire de connaissances et d'investissement des Français qui ont besoin d'acquérir davantage de connaissances sur l'économie pratique et sur l'entreprise. Le CODIS a voulu leur en donner les moyens en mettant à leur disposition un test complet et ludique pour qu'ils s'auto-évaluent et qu'ils progressent. Vous le retrouverez sur le site du CODIS. Keseco.fr.
Merci beaucoup Isabelle. Alors on va bien évidemment faire un tour de table hein, pour recueillir les réactions de nos invités. Et puisqu'il y a un représentant d'un établissement financier avec vous, Olivier Klein, bonjour. Je vais vous commencer par... alors d'abord vous êtes président du directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Et sur cette difficulté, semble-t-il, des Français à calculer un taux d'emprunt, d'abord est-ce que ça vous étonne ? Et puis quel peut être le rôle des établissements financiers pour favoriser la pédagogie de l'économie ?
Bon, sur le premier, ça m'étonne guère, mais c'est aussi parce que on devrait peut-être apprendre de l'économie un peu aussi simple et pragmatique à certains endroits dans le développement du parcours de chacun. Et savoir calculer des taux d'intérêt me semble fondamental. Je suis aussi professeur d'économie depuis 25 ans et à HEC. Je suis co-responsable de la majeure économie en HEC. Au début de dernière année d'HEC, je suis obligé de réexpliquer quand même comment fonctionnent les taux d'intérêt à peu près. Donc vous voyez qu'il y a peut-être du parcours avant qui manque un peu. Bon. Alors maintenant...
Juste une question. Est-ce que vous pensez que c'est typiquement français ?
Ce qui est typique... Il y a quelque chose de typiquement français, c'est de ne pas bien regarder ce qui se passe à l'extérieur. Mais je ne pense pas que ce soit typiquement français de ne pas bien savoir faire ça. Il y a peut-être des cultures et sans doute des enseignements plus ou moins pragmatiques quand même. Je suis allé un tout petit peu aux États-Unis, ils commencent par faire des choses pragmatiques, puis ensuite ils vont vers la théorie. En France, on aime un peu l'inverse. On va d'abord à la théorie la plus abstraite, et puis parfois par hasard, on passe par la pratique. Et ça, c'est plus compliqué et ça éloigne beaucoup de gens du coup. Alors que les deux sont possibles, il faut évidemment lier l'un à l'autre. Alors, pour une petite boutade sur le sondage, j'avais lu aussi dans le journal d'hier ou d'avant-hier que le sondage disait que 70% ou 71% des Français pensaient que les Français étaient mal, peu connaisseurs de l'économie, connaissaient mal l'économie, mais ils estimaient qu'à 50%, eux, ça allait plutôt bien. Bon. Alors, ça, c'est
les
un
autres
biais...
sont nuls, mais pas moi. Quoi.
Mais c'est un biais cognitif bien connu. Quand on fait de l'économie expérimentale, il y a toute une branche de l'économie qui est de l'économie expérimentale, qui s'est développée depuis une vingtaine d'années minimum, mais qui a eu le prix Nobel il y a plus de 10 ans. on découvre qu'il y a des biais cognitifs, c'est-à-dire qu'il y a des régularités de choses qui peuvent paraître incohérentes ou irrationnelles à première vue, mais qui en fait sont très rationnelles, et notamment il y a une surestimation. Et par exemple, il y a quelque chose qui est posé en général en sondage, qui est toujours amusante, c'est est-ce que vous estimez que vous conduisez mieux que les autres ? Et alors, il y a 70% de gens qui répondent toujours qu'ils conduisent mieux que les autres, ce qui évidemment est toujours amusant. Bon, voilà. Mais, donc ça ne m'étonne pas que ça se retrouve là, c'est un classique du genre. Alors maintenant, pour revenir à votre question, sur les institutions financières et sur le rôle, par exemple, que nous avons décidé de jouer. Au début, bon, il se trouve que là, c'est la connaissance des hommes aussi, puis c'est avec Pascal Lemaire, à un moment donné, sous le haut patronage de Patrick Artus et de son amicale pression, et en fait amicale aide surtout, on a décidé de cofonder ces journées, puis c'est Pascal Lemaire qui les dirige. Mais pourquoi on a voulu le faire et pourquoi la Caisse d'épargne Rhône-Alpes a voulu le faire? Parce qu'on pense que, d'abord, le monde aujourd'hui est un monde qui a un ordre économique. Il y a eu des mondes où l'ordre était religieux. Alors, il y a parfois, ça, ici ou là, ça peut être encore le cas, mais où ça peut se développer. Mais quand même, l'ordre du monde est économique aujourd'hui. Alors qu'on le regrette, qu'on le souhaite, peu importe. L'ordre du monde est économique. Et pour comprendre donc le monde dans lequel on vit, il est nécessaire d'avoir des bases de savoir suffisantes. Sinon, on est dans ce que j'appelle, peut-être à tort, je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, mais la démocratie d'opinion ou la démocratie d'Internet. Il y a 15 personnes qui disent quelque chose sur Internet, ça devient vrai. Ou il y a 3 sensibilités et ça devient la sensibilité générale amplifiée par les médias. Ça, c'est dangereux. Il faut que chacun soit capable d'avoir un minimum de raisonnement étayé et puisse développer un discours un peu cohérent, à chacun son niveau et à chacun sa façon de comprendre, évidemment, mais pour pouvoir comprendre le monde dans lequel on est. Et ça, alors, pour le coup, je pense que c'est important, notamment dans sa relation avec l'entreprise, où en France, c'est vrai que là, je pense que plus qu'ailleurs, il y a encore un rapprochement à faire entre l'entreprise et les personnes, ne serait-ce que pour qu'ils comprennent mieux les rouages et comment ça fonctionne et pourquoi, etc. Bon, ensuite, il faut savoir que les caisses d'épargne, historiquement, ont développé toute une culture de pédagogie de l'argent. Et ça, c'est très, très important. Il y a beaucoup de gens, comme on le disait tout à l'heure, qui ne savent pas très bien gérer un budget. Donc, il faut savoir aussi expliquer comment gérer un budget. C'est fondamental. Et comme vous ne l'ignorez pas, oikonomia, qui est l'origine grecque du mot économie, veut dire organisation de la maison, c'est par extension organisation de la cité. On gère son budget, on gère le budget de la cité, et on regarde comment est l'ordre économique du monde. Et ça, c'est fondamental que chacun puisse comprendre pour mieux agir, pour mieux, d'abord, agir en tant que citoyen, mais pour aussi agir pour soi-même, pour ne pas être démuni face à ce qui se passe, et donc face les choix les plus rationnels pour lui-même.
Merci beaucoup. Vous évoquiez l'entreprise il y a quelques minutes. À vos côtés, on trouve Guy Mathiolon, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon. Alors, c'est vrai que, en tout cas, selon ce quiz, les grands thèmes comme l'entreprise, le marché, le profit sont moyennement maîtrisés, hein, Isabelle, par les gens qui ont été interrogés. Est-ce que, selon vous, les Français ont tout simplement suffisamment d'informations sur la réalité des entreprises ?
Suffisamment, ils ont effectivement beaucoup d'informations, surtout que depuis quelques mois, l'économie est au centre de la plupart des débats. Moi, je ne suis pas persuadé que les Français soient aussi mauvais que ça, même s'ils n'ont pas encore tout à fait la moyenne, mais je suis persuadé qu'après plusieurs éditions des Journées de l'économie, on arrivera à faire progresser. Je ne suis pas certain que les Français soient si mauvais que ça, parce que comme on est la 5e ou 6e puissance mondiale sur le plan économique, je suis très inquiet pour les autres. Ça veut dire que on n'est pas si mal positionné que ça. Alors c'est vrai que c'est pour ça que l'initiative de Pascal Lemaire et de son équipe est très intéressante, parce que une grande caractéristique en fait de l'économie, en fait de la façon dont on en parle, c'est l'obscurantisme. Et l'obscurantisme d'ailleurs qui explique la crise financière que nous sommes en train de traverser. Moi je me souviens d'avoir assisté à des conférences où on essayait de m'expliquer ce que c'était que les hedge funds. Et je suis très fier aujourd'hui de dire que j'avais rien compris, parce que je pense qu'il n'y avait rien à comprendre. Et comme c'était incompréhensible, et bien ça a conduit aux catastrophes financières qu'on a connues. L'économie, je pense que c'est beaucoup plus simple que ça. Et moi, je rappelle souvent que je l'ai appris avec ma grand-mère en allant au marché. Et ma grand-mère, d'ailleurs, était chef d'entreprise. Et elle m'expliquait que quand il n'y avait plus de sous dans le porte-monnaie, on rentrait à la maison. Et après, on envoie des gens faire des études dans de très grandes écoles de commerce, hein, Bocconi, HEC ou M. Lyon, pour nous expliquer que le cash, c'est très important dans une entreprise. Et que, voilà. Donc c'est pour ça que je pense que c'est très intéressant de pouvoir communiquer sur les réalités de l'entreprise. Et c'est vrai que dans le monde économique, il y a à la fois tout ce qui tourne autour des instruments financiers, de la bourse, du CAC 40, etc., qui est un autre monde, alors que le monde de la PME, c'est-à-dire le monde de l'économie réelle, comme on l'appelle, est beaucoup plus concrète. Et en général, les salariés qui travaillent dans ce genre d'entreprise ont une meilleure connaissance des réalités économiques, et je pense qu'ils seraient certainement plutôt dans le peloton de tête des élèves au cours du sondage. Donc, moi, je crois qu'il est important qu'on arrive à faire passer ce message. L'économie, c'est pas si compliqué que ça, c'est beaucoup de bon sens. Il faut gagner plus d'argent qu'on en dépense, c'est aussi bête que ça, mais ça va beaucoup mieux quand on arrive à faire ça. Et que quand on fait des projets, notamment d'investissement, ben on doit être capable de calculer la rentabilité. Et tout le reste, à mon avis, est accessoire, et il y a des spécialistes qui doivent pouvoir le maîtriser à l'intérieur des entreprises, à l'intérieur des banques, etc.
Est-ce que les entreprises font elles-mêmes un effort suffisant en termes de pédagogie, de transparence, d'ouverture, que sais-je ?
Ben, visiblement non, puisque c'est vrai que je pense qu'il faut multiplier, je dirais, ce type d'échange, aller notamment vers les jeunes générations. On parle beaucoup de la génération Y, vous savez, ceux qui ont connu la chute du mur de Berlin, celle qui a positionné le travail un peu différemment dans sa vie tout court. Moi, je suis très optimiste par rapport à cette génération Y, parce que c'est une génération qui a connu Erasmus, donc qui est allé voir ce qui se passait à l'extérieur, qui voit que la culture dans les pays, dans d'autres pays sur le plan économique sont très différents de la France. Et donc je pense là aussi ça serait intéressant de voir en fonction des générations quel est le niveau de compréhension de l'économie. Il y avait un sondage d'ailleurs qui avait été cité lors de la première édition des Journées de l'économie l'année dernière, qui était très intéressant, qui demandait aux parents quels étaient le rêve de carrière professionnelle pour leur enfant, et la majorité des parents souhaitaient que leur enfant soit dans la fonction publique. Et quand on posait la même question aux enfants, eux, ils souhaitaient être chef d'entreprise. Et donc c'est très intéressant de voir comment les choses évoluent. Et notamment à Lyon, et c'est très bien que les Journées de l'économie s'implantent durablement à Lyon, parce que à travers beaucoup d'opérations qui contribuent, je dirais, à mieux faire comprendre l'économie, hein, je pense à toutes les coopérations qu'on a avec le Grand Lyon, à travers Grand Lyon Esprit d'entreprise, et notamment Ville de l'entrepreneuriat, je viens d'apprendre par mon BlackBerry là, qui marche tout le temps, qu'on a été à nouveau classé première ville en France pour la création d'entreprises. Et donc ça démontre bien que lorsqu'on fait des efforts collectifs pour faire connaître ce que c'est que la réalité de l'entrepreneuriat, on arrive à des résultats extrêmement significatifs, et notamment un chiffre qui est très intéressant, puisque 35% des créateurs d'entreprises sont des femmes, ce qui est un chiffre tout à fait remarquable.
Alors Roland Debache nous a rejoint. Bonjour, vous êtes recteur de l'Académie de Lyon. On constate dans ce questionnaire sur les connaissances économiques des Français que les résultats des 15-17 ans sont un petit peu inférieurs à la moyenne. D'abord, est-ce que ça vous étonne ? Et puis, les Français comptent aussi beaucoup sur l'éducation nationale pour leur faire la pédagogie en ce qui concerne les questions économiques. C'est ça, Isabelle, hein, c'est leur première source de d'information économique, a priori. Isabelle ?
Ah oui,
complètement.
Oui, c'est la première demande s'adresse à l'éducation nationale pour la formation économique. Donc, d'ailleurs, les jeunes, quand dans le sondage que vous avez cité tout à l'heure sur l'appréciation personnelle de ces connaissances, 50% des gens pensent qu'ils ont des connaissances économiques, mais le taux pour les jeunes est 64% des jeunes pensent qu'ils n'en ont pas suffisamment et ont un ressenti de manque là-dessus. Et donc, quand on pose les questions aux Français, effectivement, la première institution qui vient, c'est l'éducation nationale. Elle est suivie pas de très loin par le ministère de l'économie, je vous l'accorde.
Alors, comment l'éducation nationale peut-elle faire pour faire avancer la pédagogie de l'économie ?
Je crois, si vous permettez, que l'attente très forte qui pèse sur l'éducation nationale est un premier point très important à noter. Hein. Bien sûr, cette attente est insuffisamment satisfaite. Le sondage le montre bien également. C'est-à-dire que les Français considèrent que l'éducation nationale est un acteur de premier plan pour la connaissance du tissu économique, des règles fondamentales de fonctionnement de l'économie, des entreprises, mais que l'éducation nationale, on va dire, peut mieux faire en la matière. Nous en sommes conscients. Ce sera un des enjeux très forts des années prochaines que d'aider nos élèves à mieux connaître les règles de fonctionnement de l'économie, le tissu économique local, national, international. Je veux dire quand même que beaucoup de choses se font déjà. Je crois que les Français en ont conscience. Je ne veux pas vous donner trop de chiffres, mais quand même, il faut savoir qu'entre 20 et 25% des lycéens ont aujourd'hui un enseignement d'économie. Alors évidemment, il s'agit pour l'essentiel des séries dites ES, économie et sociale, et STG, hein, sciences et techniques de gestion, mais ça fait déjà un gros effectif. Hein, ça doit être, oui, voilà, 22, 23% de nos élèves ont un enseignement plusieurs heures par semaine, et un enseignement qui se développe de la seconde à la terminale, un enseignement vraiment structuré d'économie. Par ailleurs, je crois qu'il est important, il y a ici dans la salle des inspecteurs généraux, des inspecteurs, des professeurs, il est important de savoir que plusieurs disciplines contribuent à cet enseignement. Les sciences économiques, bien évidemment, au tout premier plan, mais ce que nous appelons l'éco-gestion, économie-gestion, l'histoire-géographie, et ce sont des disciplines qui sont au premier plan de l'enseignement, mais on pourrait en citer plusieurs autres qui, d'une manière ou d'une autre, contribuent à la découverte des phénomènes économiques. J'ajoute que un des points importants de notre politique d'ores et déjà, même si dans l'avenir proche nous allons développer cet aspect, c'est la connaissance des entreprises. À travers différents dispositifs que nous avons mis en place ces dernières années, le dernier en date, c'est le parcours de découverte des métiers et des formations qui consiste à intégrer au processus d'orientation de l'élève un processus de découverte des entreprises et des métiers. Nous avons une approche métier qui est de plus en plus fréquente, hein, stages, visites d'entreprises notamment, exposés que viennent faire les chefs d'entreprise, les responsables de différents syndicats, des organismes consulaires également. Hein. Tous ces échanges qui ont lieu entre le milieu économique et le milieu éducatif se développent considérablement. J'ajoute que j'ai parlé du lycée général, mais il faudrait parler du collège. Au collège, lorsque nous avons, il y a 3 ans, pour le collège, établi ce que nous appelons le socle commun de connaissances et de compétences, nous avons veillé à ce que la connaissance de l'économie, les phénomènes économiques, la connaissance des entreprises, soit intégrée dans ces connaissances fondamentales de la scolarité obligatoire des collégiens, dans ce que nous appelons au moins 2 des piliers du socle commun de connaissances et de compétences, les compétences sociales et civiques. Si vous regardez bien, dans la définition des compétences sociales et civiques, il y a les phénomènes économiques, et puis également, ce que nous appelons le pilier 6, et puis également dans le pilier 17, autonomie et initiative, il y a cet aspect ouverture sur le monde économique. Donc, les collégiens. Il faudrait que j'ajoute les lycéens des lycées professionnels. Ce sont des lycéens qui apprennent des métiers, et ils savent bien, leurs professeurs le leur montrent jour après jour, en lien étroit avec les branches professionnelles, avec les entreprises, ils savent bien que l'on n'apprend pas un métier de manière théorique, on l'apprend en découvrant le secteur économique dans lequel on va ensuite travailler, auquel on se prépare pour une vie professionnelle future. Et donc là aussi, dans les lycées professionnels, il y a des échanges extrêmement fréquents, riches, et je dirais féconds, avec le milieu économique. Alors je ne suis pas en train de faire un constat, loin de là, hein, d'autosatisfaction. Je résume mon propos, si vous permettez. L'attente est très forte, elle est certainement largement insatisfaite, mais il faut regarder ce qui se fait aujourd'hui en termes d'heures d'enseignement et d'échange dans différents secteurs, et il faut regarder aussi la volonté qui est la nôtre de développer ce processus, la conscience que nous avons dans l'éducation nationale qu'en la matière nous pouvons vraiment mieux faire encore.
Merci beaucoup. Gérard Collomb, vous êtes là depuis le début, vous avez entendu ce qui s'est dit. Les Français ont un besoin d'informations sur les questions économiques à la fois qui touchent à la nation, mais qui touchent aussi à leur vie quotidienne. Est-ce que c'est aussi ce que vous disent vos administrés? Est-ce que c'est le sentiment que vous en avez?
On peut ne pas répondre à votre question et en prendre une autre qui nous intéresse plus. Non, moi j'ai été très intéressé par quelque chose que vous avez dit en début, à savoir que les Français pensaient aujourd'hui que l'économie était plus importante que le politique. Si on avait posé la même question il y a 30 ou 40 ans, à mon avis, ils auraient dit que le politique était plus important que l'économie. Or pourquoi? Parce que évidemment, dans les 30 glorieuses, l'économie semblait marcher de soi. Qu'ensuite, ils ont vu, après la crise des 30 glorieuses, qu'il y avait eu différentes politiques qui avaient été mises en œuvre et qu'apparemment, elles n'avaient pas résolu les problèmes les unes et les autres. Moi, il se trouve que j'ai fait l'expérience moi-même. J'ai été élu député en 1981. Et j'avais une formation qui était, je suis agrégé de lettres classiques de formation, donc ça ne prédispose pas à l'économie. Et puis j'étais député, donc moi je croyais dur comme fer aux solutions économiques qui étaient mises en œuvre à cette époque, parce que je me disais, il y a les grands penseurs, ils sont toujours là d'ailleurs, Jacques Attali, etc., qui avaient pensé cette politique économique, donc je me disais, ça va être quelque chose d'extraordinaire. N'ayant pas de formation économique, il m'a quand même fallu à peu près moins de 6 mois pour m'apercevoir que ça n'allait pas quand même tout à fait dans le bon sens et qu'on allait avoir quelques difficultés économiques. Donc à ce moment-là, je me suis jeté dans la bibliothèque de l'Assemblée nationale, qui est une excellente bibliothèque, dans tous les bouquins d'économie. Je commençais à fréquenter un certain nombre d'économistes, puis d'essayer de me former un jugement personnel. Parce que les écoles, hein, après, quand on va dans les écoles économiques, les ensembles, les sous-ensembles, les sous-sous-ensembles, avec ceux qui arrivent jusqu'au bout, c'est ceux qui savent calculer les taux d'intérêt, donc qui sont des spécialistes de la mathématique, ça j'ai toujours pas réussi à faire de manière parfaite, mais je me suis aperçu que c'était pas forcément un tort, parce que tous ceux qui étaient les spécialistes de la mathématique en économie, c'est eux qui ont inventé les produits dérivés, donc on a vu quand même que quelque part, c'était peut-être pas ce qu'on pouvait inventer de mieux, comme j'en ai un petit dans une des sociétés d'économie mixte, pas avec vous, heureusement, vous, la caisse d'épargne, vous ne vendez jamais des produits aussi pervers, mais il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns dans d'autres, certains de vos collègues, on va dire, ils font peut-être pas le même métier que vous exactement, qui en ont vendu quelques-uns, et donc je sais quelle est la perversité, mais au départ, il faut quand même être un mathématicien extraordinaire. Parce que mis à part d'ailleurs celui qui a pondu le produit, personne à la banque même ne savait quel était le produit. Il n'y avait que celui qui avait bidouillé ça sur son ordinateur qui pouvait voir quelles étaient les conséquences. On le découvre ensemble, ce qui fait qu'on apprend quand même qu'il faut effectivement que le politique prenne conscience de l'économie, mais il faut qu'il reste quand même sur des raisonnements globaux et qu'il ne se livre pas aux délices quand même des calculs trop minutieux, parce qu'on finit par perdre la logique d'ensemble quand on entre trop dans le détail, quoi. Et donc, je pense que c'est un peu ça. Alors, les Français, c'est ça qu'ils comprennent aujourd'hui, qu'ils ont besoin d'une discussion économique. La deuxième chose, à mon avis, qu'ils ont vue, c'est que le débat franco-français... C'est le débat national, le débat politique, c'est un débat franco-français. Et puis, ils se sont aperçus que petit à petit, il y avait d'autres gens qui intervenaient simplement que les politiques français et que ce qui se passait aux États-Unis, puis ensuite au Japon, puis maintenant en Chine, ça a quelque part une certaine incidence sur leur niveau de vie, sur la façon dont évolue notre pays. Et donc, ils sont de plus en plus curieux, je crois, de ce qui se passe ailleurs, de plus en plus réceptifs. Et c'est, si les politiques français en faisaient autant et que dans les débats nationaux, ils puissent indiquer effectivement quelles étaient les limites de l'action qu'on peut avoir au niveau d'un seul pays et qu'ils indiquent les interréactions, ça serait bien, parce que plus le temps passe et plus les campagnes finalement semblent un peu hors réalité, dans la mesure où on sait que les uns et les autres vont affirmer quelque chose d'extrêmement fort, et puis que dès qu'ils seront au gouvernement, entre ce qu'ils ont affirmé de manière extrêmement forte et puis ce qui va se passer par la suite, bah, il y aura une réalité un tout petit peu différente.
Vous êtes d'accord quand même pour dire que c'est important d'avoir certaines connaissances lorsqu'on est
français,
une française, même s'il s'agit de calculer un taux d'emprunt?
Non, c'est tout à fait fondamental. Je me dis simplement, heureusement qu'ils ne nous ont pas fait faire le quiz en direct sur la scène, parce qu'autrement, si on avait moins que la moyenne des Français, ça devenait déjà difficile pour la crédibilité dans la gestion avec Jean-Jacques Kerran de la région et puis de la ville de Lyon et du Grand Lyon. Alors ça aurait été évidemment pire pour les banquiers s'ils avaient eu moins que la moyenne. Voilà, merci.
Bon, en tout cas, vous pourrez le faire, ce test, dans l'anonymat le plus complet, évidemment, sur le site keseco.fr, on vous l'a dit tout à l'heure. Jean-Jacques Kerran, alors en ce moment, on parle beaucoup des collectivités locales et de leur financement. Est-ce que vous avez le sentiment que les Français, quand il s'agit du rôle économique de la région, par exemple, ils ont une idée assez précise de comment ça marche?
Ils ont une idée plutôt imprécise, mais quand même, la région est une institution jeune. Et en même temps, il y a beaucoup d'attentes vis-à-vis de la région. Je prends notre région Rhône-Alpes, c'est 6 millions d'habitants. Nous sommes aussi grands que la Suisse. Ce sont les réseaux. On fonctionne avec une démarche d'innovation. On fonctionne en réseau beaucoup, voire le potentiel universitaire, le potentiel économique que nous représentons. Et donc, c'est cette qualité du travail qui peut permettre d'avancer. J'étais, ce qui explique mon retard, en rencontre avec les opérateurs du tourisme, tous les opérateurs des hôteliers au tourisme social, et la question est celle de l'innovation en matière touristique, parce qu'on voit que la concurrence est très forte. Il y aura un forum à Saint-Étienne dans 15 jours, je crois le 24 novembre, pardon. Et donc, l'une des questions qui était posée, je me retourne vers le recteur, tous les acteurs, pas simplement les hôteliers, pas simplement les directeurs de camping, c'était de dire qu'il faut que la formation dans le domaine du tourisme soit beaucoup plus opérationnelle, beaucoup plus proche des réalités économiques du terrain. C'est vraiment une demande très forte. Et pour vous donner un exemple que j'ai découvert, qui demande une adaptation de nos règles, en matière d'apprentissage, on ne peut passer un contrat d'apprentissage qu'avec un seul maître d'apprentissage. Or, si on prend le tourisme, notamment le tourisme saisonnier, vous voyez bien qu'on peut faire une saison d'été dans l'Ardèche et une saison d'hiver dans les stations de montagne. Mais ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir un contrat d'apprentissage sur cette forme d'alternance. Donc, il faut à tout prix que notre système éducatif évolue pour prendre en compte la nécessaire plasticité des besoins qui existent dans le domaine économique. Et puis, en matière de sciences économiques, et là, on rejoint la question de la région, il y a une demande très forte de l'opinion, une demande de connaissances très forte de l'opinion. Moi, c'est ce que je ressens, et qui s'adresse tout à la fois aux grands enjeux actuels, parce qu'on voit bien que le monde, et à travers le monde aussi, nos propres comportements sont appelés à évoluer. Moi, j'ai été très frappé, je m'adresse à Olivier Klein. J'ai vu, il y a une semaine, dans Libération, une interview du patron de la plus grande banque française, vous voyez qui c'est, je ne le citerai pas, qui disait en gros, en substance, la crise s'est terminée, la crise financière s'est terminée, youpi, les affaires reprennent et les traders reprennent leur rôle. Alors je comprends bien qu'on puisse communiquer de cette façon-là dans l'intérêt d'un opérateur banquier, d'une grande banque française, mais quand même, je me dis que quelle myopie par rapport à la réalité de ce que nous vivons. On n'est pas simplement dans une crise, on est dans une période de mutation. Et cette période de mutation, elle porte, il n'y a pas d'explication unique, mais elle porte sur nos comportements, la façon de produire, la façon de consommer, la façon de se déplacer, les équilibres du monde. Donc dire ça y est, la crise c'est fini, on a vécu 9 mois de tempête et on repart et on va recréer une bulle financière, je trouve qu'il y a une espèce d'irréalisme complet. Et alors je dirais, interpellant Olivier Klein, le prix Nobel de Paul Krugman disait, il faut que les banquiers retrouvent leur devoir de grisaille qu'ils avaient auparavant. Je pense que c'est quand même quelque chose par rapport à ce triomphalisme affiché, alors que parallèlement les emplois disparaissent, les PME ont des difficultés à être financées, je trouve ça assez indécent. Je le dis vraiment parce que c'est un élément de réaction par rapport à la situation actuelle. Je crois aussi qu'en matière économique, on dit que la croissance revient, le PIB repart, etc. Il y a eu un travail qui a été fait depuis un certain nombre d'années qui s'est concrétisé par le rapport Stiglitz. Je crois qu'on a besoin de nouveaux indicateurs économiques. Ça, c'est une comment on mesure la production, comment on mesure l'évolution des richesses, comment on mesure ce qui peut être l'élément du bonheur dans une société. Donc c'est peut-être une interpellation forte qui est portée à travers ces journées de l'économie que vous allez porter au cours de cette période. Et puis je crois aussi que si les régions ont leur rôle à jouer, on voit que le monde est en train de bouger. L'endettement américain, l'économie de prédation américaine est aujourd'hui financée de sources de financement. Ce sont les épargnants chinois et ce sont les pétrodollars. Bon, combien de temps cela durera-t-il? Mais le monde, quand la Chine affiche des performances telles que nous les connaissons, quand on voit l'émergence du Brésil, on se rend compte que nous, Européens, il y a besoin d'une réaction très forte, une réaction très vive sur ce plan-là, parce que les plaques tectoniques du monde en matière économique sont en train de bouger. C'est peut-être aussi un sujet pour vous de réflexion à travers ces journées de l'économie. Et la façon dont nous avons conçu l'Europe, disons pour simplifier encore, comme une espèce de grande Suisse protégée avec ses propres règles, nous impose aujourd'hui de dépasser cette vision. Parce que nous sommes dans un monde où la compétition devient plus vive, où les intérêts économiques évoluent. Je ne dis pas que les choses soient finies. Mais quand on voit que la clé principale de l'administration Obama, c'est du 21e siècle, Obama dit très clairement, c'est l'évolution du rapport entre les États-Unis et la Chine qui est la clé du développement, on voit bien que nous avons à nous situer. Donc ça fait beaucoup d'interpellations qui sont celles des Français aujourd'hui. Et il y a un besoin d'information, de débat, de propositions, où je pense que les économistes, tous ceux qui regardent l'évolution du monde, et donc les politiques, ont toute leur place. C'est à mon avis le message qu'on peut donner au titre de l'ouverture de ces journées de l'économie. Et dans ce cadre, les régions, projet de réforme territoriale, j'y reviendrai pas directement ici, mais je crois que quand on regarde la situation de la France par rapport aux autres pays qui nous entourent, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, on se rend compte que nos régions qui sont de création récente sont très loin d'avoir les moyens dont disposent les autres régions. Je vous donnerai un seul point de comparaison. La Catalogne, 7 millions d'habitants. Le budget de la Catalogne, c'est 37 milliards d'euros. Le budget de la région Rhône-Alpes, 6 millions d'habitants, c'est 2,4 milliards. Vous voyez que c'est 15 fois plus. Alors, je ne demande pas à voir les professeurs ici. Je ne demande même pas, parce qu'à ce moment-là, en sortant ici, on m'arrêterait, on m'embarquerait dans un hôpital psychiatrique. Je ne demande même pas, comme les Catalans, de dire « c'est nous qui allons percevoir les impôts, puis on verra ce qu'on rendra à Madrid ». Bon, on n'en est pas là, hein, on n'en est pas là. Mais quand même, il faut qu'il y ait une taille conséquente, des moyens conséquents pour que les régions en France puissent jouer leur rôle et non pas les affaiblir.
Merci. Je voudrais qu'on ouvre maintenant les perspectives, puisque nous avons Tito Boeri avec nous. Tito Boeri, qui est professeur d'économie à l'université Bocconi de Milan et qui a créé un peu l'équivalent des journées de l'économie, hein, en Italie, à Trente, le festival de l'économie. C'est déjà un terme plus festif. Hein. Pour vous, c'est festif. Alors, d'abord, comment vous percevez cette tentative d'évaluer les connaissances économiques des Français, et est-ce que ça se fait en Italie?
Non, je pense que le questionnaire est une chose très importante et très bien faite. La chose que j'aime bien du questionnaire, c'est qu'il y a des questions qui essayent de mesurer les connaissances et des autres qui sont surtout sur le raisonnement. Et donc, il y a un moment de formation dans la compilation, en répondant au questionnaire. Donc, c'est bien aussi qu'il y a d'autres personnes qui vont continuer à répondre au questionnaire. Donc, c'est une bonne idée de le laisser sur le site, d'inciter des personnes à le faire. Je pense qu'il faudrait faire ces questionnaires plus fréquemment, parce que l'idée, ce n'est pas de noter les personnes qui répondent. L'idée, c'est de noter les systèmes d'éducation et surtout la façon dont on fait de la formation économique. Donc, ce serait une bonne idée, par exemple, de le faire au début de l'année, à la fin de l'année, et clairement en changeant un petit peu les questions pour voir exactement si les enseignements ont amélioré les connaissances sur des sujets particuliers, sur des questions, sur la façon de raisonner. Donc je pense que c'est une très bonne idée. Peut-être on pourrait faire des choses similaires même à côté du festival de Trento. Et l'idée, c'est pour ça que je suis très heureux d'être aujourd'hui ici, parce que je pense qu'entre les journées de l'économie de Lyon et le festival de Trento, il y a un peu la même idée. C'est l'idée de, en reprenant aussi ce qu'on disait au début, de démocratiser l'économie, de donner la possibilité à plus de personnes de participer à la discussion. C'est pas l'idée de donner des réponses des réponses complètes aux grandes questions qui sont au centre du débat public, parce qu'il y a des questions sur lesquelles on arrivera peut-être à la fin des journées à donner des réponses complètes, mais c'est surtout de transmettre une méthode pour voir quelles sont les choses les plus importantes, comment on peut essayer de répondre à ces questions qui sont tellement difficiles. Et je pense que les journées de Lyon, le grand succès aussi de la première édition, j'espère le succès de cette deuxième édition, montre qu'il y a une demande très forte d'information de qualité et à laquelle il faut clairement savoir répondre. Et en même temps, il y a aussi l'offre, parce qu'il y a aussi des personnes qui ont plein d'autres choses à faire, qui viennent ici, qui passent du temps pour se préparer. Il y a des professeurs à l'université, des chercheurs qui donnent leur temps pour se mesurer avec le public, pour essayer de rendre leur recherche compréhensible à un public. Et là, c'est une chose qui c'est très bien aussi pour nous économistes, parce que ce n'est qu'en essayant d'expliquer nos choses d'une façon intelligible à un public différent, que ce n'est pas ceux des universités, qu'on arrive à améliorer aussi notre façon de faire recherche. Donc, je pense que les deux choses, la demande de qualité et l'offre, sont très importantes dans ce genre des événements.
Et à part le festival de Trento, est-ce qu'il y a en Italie des initiatives, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple d'initiative pour favoriser la pédagogie de l'économie, qu'on pourrait copier peut-être?
Il y a des initiatives, malheureusement pas trop dans l'éducation nationale, parce que on vient de décider une réforme des lycées dans laquelle on va réduire le contenu, les heures d'enseignement d'économie, et donc ça c'est pas une bonne chose, je pense. Je ne dois pas le dire parce que ça semblerait une chose défense de la profession, mais je pense que c'est certainement pas une bonne idée, surtout à ce moment où il y a une très bonne, très très forte demande. Attention, une chose que je voulais dire avant même, les personnes qui viennent à Trento, j'imagine les personnes qui viennent ici aux journées des économies, ne viennent pas simplement parce qu'ils ont des questions, des problèmes pragmatiques liés à la vie quotidienne. il demande des réponses à ces problèmes. Ce n'est pas simplement la question d'équilibrer un budget, de voir le bilan familial, la gestion familiale de tous les jours. Et ils ont aussi des questions beaucoup plus importantes et plus... à Trent, on a parlé beaucoup du problème de sous-développement, on a parlé de la Chine, on a parlé des pays, des choses qui sont très loin de la vie quotidienne de nous tous. Donc ça aussi, c'est un démon très fort qu'il y a dans la société à laquelle il faut essayer de donner une réponse. Donc malheureusement, l'éducation nationale en Italie, ça ne va pas évoluer dans cette direction, mais il y a beaucoup d'autres initiatives, des choses qui vont se passer. Il y a, même en France, l'essai d'utiliser Internet pour faire aussi de la formation sur Internet. Le succès aussi de sites comme Telos en France, je crois que montre qu'on peut faire, on peut parler d'économie, on peut écrire d'économie, on peut avoir des débats publics sur la question de l'économie sur Internet en ayant un public important. La discussion entre Murdoch ces jours-ci et Google démontre que Internet va gagner de plus en plus d'importance dans l'information et même, j'espère, dans la formation d'économie. Et donc ça aussi se passe en Italie.
Merci Tito. Eh bien, il me reste à remercier tous les intervenants de cette table ronde et que les journées de l'économie soient festives alors pour vous, comme ça peut se passer en Italie. Merci, bonne journée à vous tous.